Sur la chaussée, juste à la sortie de la cité, un bus scolaire attend. Si l'une d'elles saisit l'ironie, elle la passe sous silence. Le bus est d'un bleu jean délavé avec, en lettres spectrales, l'inscription « Franklin Middle School » encore visible sous une couche de vieille peinture. Les pneus ont l'air complètement lisses. Une vingtaine de femmes ont attendu tout ce temps à l'intérieur. Elles ont baissé les vitres et laissent pendre à l'extérieur le bras qui tient une cigarette. Plusieurs d'entre elles s'éventent. Il ne fait pas encore une chaleur infernale, il n'y a pas de soleil, la matinée est nuageuse, mais l'humidité de l'air est insupportable. Mary Pat connaît la plupart de ces femmes. Presque toutes ont des coiffures en forme de ruche, ce qui n'a rien d'inhabituel à ça aussi. Ce qui est inhabituel, en revanche, c'est qu'elles ont mis des petits drapeaux américains et ce qui a l'air d'être des sachets de thé au milieu de leur ruche. Elle croise à peine son regard tandis qu'elle prend place à l'avant avec les sœurs du swab. Mais elle les observe assez longtemps pour confirmer que, oui, ce sont bien des sachets de thé. Tandis que le bus s'engage lourdement sur la chaussée, Mary Pat jette un coup d'œil dans l'allée centrale et elle repère Mary Kate Dooley, Mary Jo O'Rourke, Donna Ferris, Erin Dunn, Tricia Hughes, Barbara Clark, Kerry Murphy et Nora Quinn. De vieilles amies, toutes. Mais aucune ne croise son regard. Empilées à l'arrière, occupant les quatre sièges du fond et l'espace derrière eux, elle aperçoit les pancartes dont certaines, Mary Pat en est sûre, ont été assemblées par elle-même quelques soirées auparavant sur le sol de son appartement. Elle quitte South Boston dans la grisaille humide. Elle fume et échange des banalités et le centre-ville se rapproche un peu plus à chaque intersection qu'elle franchisse. « J'ai pas envie de parler d'elle », dit Joyce O'Halloran à Carol, les mains sur les oreilles. « Alors pourquoi tu en parles ?» demande Carol.
« J'en parle pas. C'est juste que c'est une foutue, tu sais. Ah, elle est invivable. Voilà ce qu'on récolte à les gâter et avec la télé et la musique qu'ils écoutent où tout le monde fait l'apologie de la drogue et de l'amour libre. » Ah, ça c'est sûr, c'est pas comme ça qu'on a été élevés, nous. Mais elle trouve que c'est bien de parler à tort et à travers à propos de tout. Mais tout, je te dis, merde. Si moi je crois une chose, elle croit le contraire. Et pas parce qu'elle y croit, mais parce qu'elle veut me faire de la peine.
Elle veut te faire de la peine, acquiesce Carole.
Elle veut te faire de la peine,
fait chorus Anna. C'est qui ? Demande Mary Pat.
« Ma fille, » répond Joyce avec un geste désinvolte de la main. « Cécilia, une petite garce. Mon mari et moi, on élève 5 enfants. Il y en a 4, ça va, mais celle-là, celle qui est au milieu. Ceux qui sont au milieu, c'est toujours du souci, » dit Noreen Ryan.
Les sœurs du swab hochent toute la tête pour confirmer.
« C'est juste une adolescente, » dit Maureen. « Ils traversent tous des périodes comme ça !»«
fait Joyce visiblement pas convaincue. Le bus traverse le pont de Northern Avenue en cahotant et prend à droite dans Atlantic Avenue et maintenant elles sont officiellement sorties de South Boston. Elles sont dans Boston proprement dit. Le City Hall n'est plus qu'à 1,5 km.
C'est le moment pour nous, les filles. »
Carole plonge la main dans son sac et en sort une poignée de petits drapeaux et de sachets de thé. Mary Pat prend un drapeau. Au lieu de le planter dans ses cheveux, elle glisse la petite tige en bois dans une boutonnière de son corsage. Joyce, Carol et Noreen choisissent un drapeau. Patty, Maureen et Anna optent pour le sachet de thé. Mary Pat les observe s'entraider à les mettre en place dans leurs cheveux et elle ne peut pas s'empêcher de leur demander « C'est quoi ces sachets de thé ?»
Tu t'en souviens pas? On en a parlé à une réunion.
J'ai dû rater celle-là.
La Tea Party, Mary Pat. La Boston Tea Party,
dit Anna.
Quand ils ont balancé tout le thé dans le port.
Ça, je sais, répond Mary Pat.
Eh ben nous, on commence notre propre rébellion contre la tyrannie, ajoute Patty. D'où les sachets de thé.
Est-ce que les gens vont saisir l'allusion? Demande Mary Pat.
Quelques-unes des femmes pâlissent et Mary Pat entend murmurer dans son dos.
Mais il est trop tard pour discuter parce qu'à présent, elle quitte Sudbury Street pour s'engager dans Congress Street, le JFK Federal Building, se profilant dans la fenêtre au coin nord-est de City Hall Plaza. Et Mary Pat distingue une marée humaine qui afflue sur l'esplanade de toutes les directions, à ce qu'il semble. La circulation est maintenant très ralentie. Tandis que le bus avance au pas, on aperçoit les arêtes de béton du City Hall. C'est un édifice d'une grande laideur, sans couleur, à part un peu de briques à la base, sans grâce, de haut en bas. À l'intérieur, c'est pire. Ce bâtiment semble avoir été construit dans le seul but de faire comprendre à ceux qui ont une affaire à régler avec la ville, avant même qu'ils y soient entrés, que c'est toujours la municipalité qui gagne. « On attend combien de personnes ?» demande Mary Pat au groupe.
« 1500 peut-être, » répond Carole.
Le bus s'arrête au bord du trottoir. Tandis qu'elles descendent, le chauffeur remet un autre sachet de thé à tout le monde. Elles ouvrent la porte arrière et chacune d'elles attrape une pancarte. Celle de Mary Pat dit « Non à la dictature judiciaire ». La femme près d'elle en brandit une qui proclame « Bostonien, union sacrée ». Mary Pat se surprend à regretter de ne pas avoir pris celle-là. L'acronyme est plus pertinent. Elles prennent l'escalier qui mène de l'arrière du bâtiment à l'esplanade. Les nuages se sont dissipés. Le soleil, éclatant et brûlant, vrille immédiatement la nuque de Mary Pat. La foule qui monte les marches, si dense que Mary Pat et ses compagnes de bus semblent n'être que des grains de poussière dans la multitude qui les entoure, est déjà en sueur. La chaleur fait rosir les visages. Il y a des tas de drapeaux. Drapeaux américains, drapeaux irlandais et draps tendus entre de longs bâtons portant le nom de quartier. Ça aussi pour la plupart, mais aussi Dorchester, Hyde Park, Charlestown et East Boston. À mi-hauteur des marches, la foule se met à scander le serment d'allégeance au drapeau et Mary Pat doit admettre que cela lui fait du bien, tandis que les mots sortent de sa bouche. Particulièrement à la fin, quand la foule hausse le ton de plusieurs crans et éructe la dernière formule, la liberté et la justice pour tous. Elle commence à se dire qu'ils sont plus de 1500. Et quand ils atteignent le haut des marches et se déversent sur l'esplanade, elle est bouleversée de constater qu'ils sont des milliers. Elle ne voit pas où se termine cette foule. Ils doivent être 9000, 10000 peut-être. Carole conduit le groupe jusqu'à une fontaine, où elles ajoutent leurs sachets de thé aux centaines qui sont déjà là, le thé donnant à l'eau une teinte de rouille. Une fois encore, Mary Pat se demande si quelqu'un va comprendre. Elle imagine un vieux flic planté devant la fontaine un peu plus tard, en train de dire « Ah bon sang, ces abrutis savent pas que le thé a meilleur goût quand on fait chauffer l'eau comme il faut !» À l'autre extrémité de la foule, elle remarque les contre-manifestants. La plupart d'entre eux se tenant prudemment de l'autre côté de la rue, aux 3 Center Plaza. Des hippies, majoritairement blancs et débraillés, et tous entretenus par leurs parents. Quelques noirs, portant avec arrogance coiffure afro et dashiki, et pour finir, un noyau d'hommes et de femmes qui ressemble à Mary Pat et aux gens qu'elle connaît. Des gens de la classe ouvrière, irlandais, polonais et italiens. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont là, et brandissent des pancartes proclamant des choses du genre « Stop à la ségrégation », pas terrible non plus comme acronyme, et « L'éducation est un droit civil ». Mary Pat est choquée d'apercevoir dans ce groupe quelques personnes d'un certain âge qu'elle reconnaît. Madame Walsh, d'Old Colony Avenue, le vieux Tyrone Follan, de Baxter Street, toute la famille Crowley, de M Street. Avant qu'elle ait eu le temps d'en identifier d'autres, elle est emportée par la vague avec ses compagnes, ballottée et entraînée par quelque étoile polaire invisible qui les conduit jusqu'à un endroit situé à une dizaine de pas de la Seine. Là, pas de contre-manifestants. Qui oserait? Les gens sont entassés sur des centaines de rangs, pas seulement ça aussi. Le secteur blanc de Dorchester, Hyde Park, Charlestown et East Boston. Mais cette foutue ville tout entière. Revere, Everett, Malden, Chelsea, Roslindale,
à l'exception évidemment de Mattapan, Roxbury et des secteurs de Dorchester qui sont devenus totalement noirs à présent. Dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la phase 1, la ville va mettre fin à la ségrégation dans 59 des 200 établissements scolaires que compte le système éducatif public. Les premières mesures prenant effet dans moins de 2 semaines. Dans les 2 ans à venir, la totalité de ces 200 établissements sera affectée. Et c'est ce qui explique cette foule, au bout du compte. Tous seront concernés par ce problème. Les 3 premiers orateurs sont des membres du comité de l'enseignement de Boston, ceux qui se sont le plus battus depuis presque une dizaine d'années pour que les écoles restent telles qu'elles devraient être. La première personne à prendre la parole, Shirley Brackin, de la paroisse Saint-William à Dorchester, répète ce que tous les gens présents savent déjà, à savoir, aucun de ceux qui ont décidé de mettre fin à la ségrégation des écoles d'une façon aussi aberrante que le busing ne réside dans les quartiers concernés par la mesure qu'ils ont décrétée. Aucun d'eux n'envoie ses enfants dans une école publique. Aucun d'eux, les Blancs en tout cas, ne vit dans un quartier multiracial. Parce qu'il n'y a tout simplement pas de quartier multiraciaux à Boston. L'oratrice suivante, Géraldine Guffey, de la paroisse Saint-Augustine à Saucy, s'en prend à la destruction inévitable de leur mode de vie. Leur quartier leur offre une vie de village à l'intérieur d'une grande ville, où tout le monde connaît ses voisins parce qu'ils ont tous grandi ensemble, ont fréquenté les mêmes écoles, joué sur les mêmes terrains de jeu, pratiqué les mêmes sports, si bien connu les parents et les grands-parents des uns et des autres que, tenez, si un de ses gosses faisait un pas de travers, ses parents et ses grands-parents se sentaient libres d'intervenir et de le corriger d'une tape sur la joue ou sur les fesses, ou juste une sévère remontrance, comme si le gosse en question était le leur. « Ils nous disent que cela va changer le quartier en bien !» dit Géraldine Guffey, qui doit ensuite attendre que retombe le tollé des huées et des sifflets. Que dans un pays de contes de fées, tout sucre, tout miel, nos enfants et ceux des personnes de couleur vont devenir amis. Mais nos enfants et les enfants de couleur vont rentrer chez eux tous les soirs pour retrouver leurs amis et leurs familles dans leur quartier. Ils ne vont pas devenir amis, juste des camarades de classe. Et nos traditions, notre mode de vie, notre sentiment de sécurité, nous ne pourrons plus les retrouver. On ne peut pas retrouver quelque chose qui a disparu. Et toutes ces choses auront disparu à l'instant même où vous verrez le premier de ces bus passer dans la rue en direction de notre lycée. La foule explose dans un mélange d'euphorie et de menaces. Mary Pat regarde par-dessus son épaule et il lui est impossible d'en mesurer l'importance. Elle est au centre de l'esplanade. Mais cette foule est si immense qu'elle ne parvient pas à voir l'une ou l'autre des rues qui y mènent. Elle sent la puissance de ces gens, leur indignation et leur tristesse. Et elle est surprise d'éprouver subitement les mêmes sentiments qu'eux. Pour la première fois, depuis qu'elle a ouvert cette sacoche pleine d'argent et compris ce que cela signifiait, elle ressent quelque chose. Elle pensait qu'après avoir perdu sa fille, il ne lui restait plus rien. Et c'est encore vrai en grande partie. Mais elle ne doit pas oublier qu'il lui reste son mode de vie. Il lui reste son quartier et tous les gens qui y vivent. Il lui reste la communauté. Et ce que ces ingénieurs sociaux et ces gens de gauche qui roulent en limousine sont en train de faire, c'est balancer un boulet de démolition dans tout cet édifice. Dans son mode de vie. La seule vie qu'elle ait jamais connue, la seule chose qui lui reste à défendre dans ce monde. Quand le 3e orateur, Mike Dowd, de la paroisse du Très Précieux Sang de Hyde Park, monte sur la scène, il ne peut sortir qu'une phrase ou deux avant d'être noyé par les rugissements de la foule. Il attend qu'elle se calme, prononce encore 2 phrases, et les rugissements repartent de plus belle. Mary Pat et la demi-douzaine de sœurs du Swab sont là, au milieu de la foule, hurlant à s'en casser la voix.
« Dieu nous a fait !»
braille Mike Dowd.
Dieu nous a fait femme et Dieu nous a fait homme. Et Dieu ne commet pas d'erreur, pas vrai ?
La foule est un peu moins sûre de la manière de réagir à cela, mais la plupart s'écrient « Vrai !» Mike Dowd se penche vers le micro.
« Et Dieu nous a fait blanc et noir, et brun, et asiatique. Et ça, est-ce que c'était une erreur ?»
Là encore, petite hésitation. Comme si les gens étaient perturbés parce que personne ne les a prévenus qu'il faudrait répondre à des questions. Mais au bout d'un moment, un
« Non !»
rugissant monte vers le ciel. Mike Dowd hurle.
« Exactement ! Non ! Dieu n'a pas commis d'erreur ! Il a choisi de nous faire blanc, noir, brun et asiatique, et même indien rouge ! C'étaient les couleurs qu'il a voulu ! S'il avait voulu qu'on se mélange, alors il nous aurait mélangés ! Il nous aurait fait moitié jaune, moitié bleu, violet et blanc !»
Des ricanements approbateurs parcourent la foule.
« Il ne nous a pas mélangés parce qu'il ne voulait pas qu'on se mélange !»
Bon, est-ce que ce n'est pas vrai ? Pense Mary Pat. Est-ce que ça n'est pas ça, l'essentiel, en fin de compte ? Nous avons notre mode de vie. Les gens de couleur ont le leur. Les Hispaniques, le leur. Les Asiatiques ont Chinatown. Bon Dieu ! Et vous ne voyez personne essayer de les forcer à se séparer et se disperser à travers la ville ? Non, ils savent rester à leur place. Et tant qu'ils y resteront, on les laissera tranquilles. On les laissera s'occuper de leurs affaires. Et c'est tout ce qu'on veut, nous aussi.